L'expérience commence. Qui n'a pas rêvé de rencontrer un auteur disparu ? Qui n'a pas senti une connivence si forte, une complicité si évidente avec une écriture qu'elle est devenue amie ? Stig Dagerman, auteur suédois qui s'est donné la mort en 1954, est entré dans la vie de Christophe Fourvel un jour de l'automne 1990. Depuis plus de 30 ans, c'est un compagnonnage. Christophe Fourvel l'a lu, a écrit et est finalement parti en Suède sur ses traces avec un petit enregistreur, en quête de cet ami qu'il n'a jamais rencontré. L'auteur de ce court et sombre texte, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Ça ressemble à rendre visite à quelqu'un de très familier, celui qu'on a surnommé le Rimbaud du Nord. Mon ami Stig Dagerman, par Christophe Fourvel, la réalisation est signée Marie-Laure Ciboulet.
Stig Dagerman est mon ami. Il est le seul écrivain mort avant ma naissance que je puisse qualifier d'ami. Il a toujours été d'une incroyable générosité avec moi. Alors, je savais que j'allais finir par lui proposer plus que les quelques mots que je lui avais adressés jusqu'alors.
Linger a little longer. It gets stronger the longer you stay. And oh, I can't help feeling this way. Wonder this spell I'm under. In the glow I feel bold yet unsure. And oh, I can't explain this strange allure. Raindrops falling, night is calling. Let's take in the view and linger a little longer, me and you.
Le 4 novembre 1954, Stig Dagerman se donnait la mort dans sa maison de Stockholm. Ce jour-là, l'écrivain suédois allumait le moteur de sa voiture puis a attendu que les gaz d'échappement envahissent son garage et ses poumons. Stig Dagerman avait 31 ans. Il avait connu le succès avec plusieurs livres mais n'écrivait plus, ou presque plus, depuis plusieurs années. Il avait été rejeté très tôt par sa mère et sans doute que l'enfance lui avait assigné cette urgence d'écrire ce titre sous la couverture de son livre le plus célèbre et le plus court. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Chaque Noël voit ressurgir cet indémodable appel au secours sur les tables de nos libraires. Chaque Noël, le titre arrête le regard des gens qui le trouvent très juste et très beau. Et s'il commence à lire, il découvre ceci. Je suis dépourvu de foi.
Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux. Car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux.
Ne peut être heureux. Ceux qui fréquentent cet auteur savent combien il est difficile de plaider pour une œuvre aussi sombre, hantée de bout en bout par le suicide et la peur. À lire et à relire ainsi ces carnets de désespoir et de solitude, nous sommes quelques-uns à entendre le petit battement de l'âme dont nous avons besoin pour nous sentir moins seuls. L'angoisse et les émois de Bengt, l'enfant brûlé, les paysans humbles d'ennui de noces, l'adolescent de la nuit de la Saint-Jean, la prostituée du condamné à mort, auront brièvement émergé du drame d'exister avec un regard brillant de lucidité et prononcé des mots décisifs dont la beauté est demeurée impuissante à sauver l'homme qui les avait pensés. Cela fait maintenant 30 ans que j'ai rencontré cet ami et j'ai appris à me rendre dans son monde par 4 chemins. Le chemin le plus délicieux fut de lire tous ses livres et tous les livres que les éditeurs ont composés à partir de ses textes, demeurés inédits ou éparpillés. Le deuxième, le plus ardu, fut d'apprendre à écouter sa langue car la sagesse commande ceci. Si ton ami est étranger, apprends à écouter la langue de son pays. La musique te portera là où vivent encore ces émotions. Le troisième chemin, le plus exigeant, fut celui de l'écriture. Car si tu sais écrire, alors écris sur ton ami. Peut-être entendras-tu ce qui n'était adressé qu'à toi et que nul n'a entendu. Enfin, en 2020, je me suis rendu en Suède, à Älvkarleby et à Stockholm, dans le village où il a grandi et dans la ville où il a vécu. Cette expérience est le cinquième chemin jusqu'à la maison de mon ami.
Welcome to Stockholm. Please remain seated. As soon as the fasten seatbelt sign is switched off, the passengers on the first row may collect their belongings from the luggage bins. Please respect the distance rules and remain seated until the passengers in front of you move towards the exit.
J'ai toujours eu une sorte d'attirance pour la Suède à travers d'autres écrivains, d'abord comme Torgny Lindgren ou Göran Tunström, et bien sûr le cinéma avec Bergman. Et ça fait 25 ans que je me dis que je voudrais apprendre à parler suédois. Mais j'ai toujours eu un rapport assez conflictuel avec les langues étrangères. Je crois que c'est une sorte de fantasme chez moi d'être polyglotte, mais je n'y arrive. J'y arrive très très peu. Et le suédois, c'est devenu une sorte d'assaise, comme ça. Je pratique un quart d'heure de suédois comme d'autres font un quart d'heure de mots croisés ou un quart d'heure de sudoku. C'est-à-dire, c'est une espèce d'investissement intellectuel à pure perte. Et j'ai cette chance de... la chance de ma misère, c'est de pouvoir compter toute ma richesse en suédois. Parce que je connais 278 mots. Quand on a un tout petit cheptel comme ça, on peut facilement en répertorier toutes les unités. Et puisque je suis seul à Stockholm pour un mois, et puisque donc j'ai un grand temps devant moi, je... Je vais tenter une expérience pérequienne. Je vais tenter d'écrire des poèmes en puisant dans mes 278 mots de vocabulaire. Voilà, c'est une manière de rentrer dans ce pays de la façon la plus humble, en me dépouillant de ma langue, en arborant que des lambeaux de la langue du pays. Et c'est une manière de me rapprocher un peu plus de Stieg Dagerman et peut-être d'entendre mieux la musique de ses livres.
Va dire du R, ingenting. Il y a arbeta.
Que fais-tu ici?
Il y a R.
Rien. Je ne travaille pas. Je ne suis pas en visite. Je n'écris pas. J'attends que des mots qui vivent loin viennent en moi.
Stars are calling, let's turn down the light and linger a little longer tonight.
1923. Quelque part à Moscou, Isadora Duncan créa un solo intitulé Mozart. Ses enfants sont morts noyés dans la Seine 10 ans auparavant, alors elle tente d'habiller son chagrin nu de mère avec les habits d'une danse. Encore une fois, depuis la nuit des temps, comme dans le mélange d'un carnat de tant de peintres, comme sous la main endeuillée de Victor Hugo, de Stéphane Mallarmé, la douleur inspire du sublime et du dérisoire. Cette même année, une mère accouche d'un garçon dans un village suédois, à Elfkarleby, pas très loin de la ville de Yelve, et l'abandonne au bout de 6 semaines à la garde de ses beaux-parents. Elle ne viendra jamais le voir. Elle effectue elle aussi un geste artistique. Elle ne le sait pas. Personne ne le sait et tout le monde a le droit de trouver absurde cette affirmation. Mais de son abandon naîtra un jour une œuvre profondément meurtrie.
Impressionnant cet accueil de ce corbeau, tout seul. Une grande solitude du corbeau à Elfkarleby, chargé d'accueillir les voyageurs étrangers. Le village de naissance d'Agerman, c'est la campagne, c'est les fermes, c'est les arbres, mais c'est aussi la rivière. La mer est toute proche. À l'époque de Dagerman, de l'enfance de Dagerman, il y avait des rapides. Et des gens qui descendaient les rapides, ça l'impressionnait beaucoup. Il fait allusion à ça dans l'île des condamnés et dans le condamné à mort, la pièce. Il y a des résurgences comme ça de ces êtres impavides qui descendaient les rapides au risque de leur vie.
Stig grandit dans ce qui était une ferme suédoise des années 1920, la campagne, la misère, le vent immense et deux petites jambes pour le transpercer.
C'est toujours aussi calme, j'ai croisé deux promeneurs. Les inévitables chalets rouges. Et puis des drôles de têtes de chevaux sculptées. Trois têtes de chevaux sculptées avec sur le haut du crâne des comme des lames de faux mais sans le manche. Quelque chose qui rappelle la dureté des travaux au champ, je suppose.
Il grandit avec un oncle, deux tantes et un cousin. On buvait plus que de raison dans les maisons d'Elfkarleby. Mais toutes les raisons du monde pesaient moins qu'un seul cheveu de Dieu. Les chiens, les chevaux et tous les animaux de la ferme enfermaient dans leur petit nom toute l'affection dont on était capable. Il grandit, l'été pieds nus, et l'hiver les pieds dans des sabots ou des bottes trop grandes. Sans livre, sauf probablement la Bible ou d'autres ouvrages pieux, et sans mère, sans père, sauf un dimanche de temps en temps. Il fallait parfois arracher les fans des carottes pendant des journées entières, et un beau-frère de sa grand-mère était chanteur. Son oncle s'appelait Henning, et lui racontait des histoires du temps passé.
Il y a quelques grands oiseaux. Il n'y a plus l'aigle des mers, qui impressionnait beaucoup d'Agerman. Et qui est aussi cité dans un poème de Strindberg qu'il aimait se répéter lorsqu'il était lycéen. Un poème qui évoque la liberté, bien sûr. Je suis content d'être là, vraiment.
À quoi s'accrochent les rêves dans le village d'Elfkarleby de Lupland dans les années 1920 ? Quand le vent ou les oies sauvages acceptaient de les prendre avec eux ? À quoi s'accrochaient les rêves quand les livres ne déballaient aucun trésor sur la face sombre des lits ? Il n'y a pas à Elfkarleby de collines et de montagnes avec un au-delà qui donne des fourmis dans les jambes et dans le futur. Il y a des épicéas, des bouleaux et Dieu.
En fait, il y a un deuxième bras de rivière. Et là, il y a encore des rapides, on les entend très fort. On n'est toujours pas au village. C'est un drôle de chemin qu'il faut accomplir pour aller prendre le train. Traverser toute cette eau, il fait plutôt froid. Hein.
Il fait plus froid qu'à Stockholm. Là, le ciel est vraiment très bas, c'est très brumeux. Ça ne parvient pas à être triste. Les choses sont tellement harmonieuses là, à l'endroit où je suis, à travers mon regard d'étranger aussi, que le gris est une couleur gaie. Enfin, en tout cas, une couleur pas triste. Les oiseaux ont l'air de se repaître de ce gris. Le vert des arbres va très bien avec ce gris. Le ciel est bouché, mais non, c'est bien aussi. Tout est formidable. Je ne sais pas. J'ai juste un peu froid. Je crois que je vais aller boire un café et manger une cannelle boulée, comme à peu près tous les jours depuis que je suis ici.
Je suis toujours venu en Suède par deux chemins.
Par le pont
Ingmar Bergman ou par la montagne Stigdagerman.
Ja, känner bara till de här två vägarna.
Je ne connais que ces deux chemins-ci.
Idag, jag äter i den enda öppna.
Aujourd'hui, je mange dans le seul bar ouvert à Älvkarleby, une petite ville dans l'Uppland, et j'attends un car.
Jag väntar på en buss.
Je parle avec un homme qui est kurde et qui vient de Syrie. Je regarde l'homme et je me demande quel chemin il a pris pour arriver jusqu'ici.
Elmer Jansson est carrier. Il construit des routes et des voies ferrées jusqu'en Norvège. Bientôt, il sera employé à la municipalité de Stockholm et travaillera à la construction du métro souterrain. Il cessera d'être nomade. Il gagne correctement sa vie pour un ouvrier. En 1929, Elmer Jansson décide de récupérer la garde de son fils et de l'amener vivre avec lui dans son appartement du quartier Söder. Il n'habite pas seul. Il a une nouvelle femme, Esther Larsson, et un nouveau fils qui vient à peine de naître, Egon. Il ressent l'instinct originel de réunir sa meute autour de lui. Mais ça ne marche pas. Stig repart dans la ferme familiale de Loopland, s'oubliant encore un peu dans le nu de la vie, les odeurs d'animaux et de merde, les fans des carottes, les rêves percés par les aiguilles de sapin. Encore un peu les pieds nus, les histoires de l'oncle Henning, et les rapides qui broient on ne sait quel gris-bleu essentiel. Un sursis, un retard, un bon gruau de temps pour douter. Il part définitivement vivre à Stockholm 5 ans après, alors qu'il a 11 ans. Entre-temps, il entend la drôle de musique que fait parfois aux oreilles de notre âme notre différence. Il ira au collège, puis au lycée à Söder, le quartier ouvrier de la capitale où il sera toujours, aux yeux de ses camarades, un petit paysan. Et quand il retournera dans la ferme de Loopland, il sera désormais un citadin. Il faut que s'opère un dédoublement de soi pour être à la fois vivant et sur une feuille. Il faut une différence à cautériser pour se jeter dans l'écriture. Ou encore, être parti d'un monde avec des voix vers un autre monde où on ne les entend pas. Il faut une anomalie.
Voilà, je suis sur Ossegatan, numéro 157, dans le quartier de Söder. Face à la maison où est venu Stigdagerman rejoindre son père lorsqu'il est arrivé à Stockholm. Je pense que c'est la même maison, puisque celle que j'ai devant moi est assurément plus ancienne que les années 30. La bâtisse est belle. On a envie de dire belle quand on connaît les origines modestes du père de Dagerman.
Il avait quand même le sens de l'économie et du capital, parce qu'à la fin de sa vie, il possédait 5 appartements dans cette bâtisse. Alors, la façade est assez uniforme, il y a très peu de variations de relief. Il y a 7 fenêtres sur toute la largeur. Il n'y a pas de volets comme dans toutes les maisons scandinaves. Les fenêtres sont découpées en 8 carreaux. Les huisseries sont rouges. La porte est rouge. La façade est, je dirais, couleur crème, sauf le rez-de-chaussée qui est marron clair. On aperçoit la découpe de 6 chiens assis. Il y a un rez-de-chaussée, 4 étages. Je ne sais pas à quel étage il habitait.
Je travaille donc dans une librairie sur Jordgotsbacken. C'est juste à 2 pas de là.
Anna, de la librairie Hansson och Brus.
Juste entre l'endroit où Stig Dagerman est allé à l'école et l'endroit où il habitait. Et j'ai entendu par des clients âgés qu'il avait l'habitude de venir ici de temps en temps pour acheter des livres. Et j'ai même rencontré une personne qui est allée dans la même classe que lui. C'est un ancien client qui est décédé aujourd'hui. Mais c'était son quartier, et dans cette librairie, nous le tenons en grande estime. Et nous avons ses livres, et nous avons aussi sa photo sur le mur. Et il venait accompagné un peu plus tard aussi de Thomas Tranström, qui passait ici aussi lui. Il y a des histoires sur eux deux dans cette librairie. Et c'est un héritage amusant à garder en vie et à stimuler, à faire vivre.
En 1940, son grand-père fut tué de 17 coups de couteau par un illuminé. Sa grand-mère mourut quelques semaines après. De chagrin, est-il d'usage de dire dans ces cas. 17 coups de couteau sur son enfance. Stig Dagerman allait avoir 17 ans lorsque la mort de son grand-père se produisit. La détresse doit bien ressasser de telles coïncidences. 2 années plus tard, il envoya une nouvelle à un journal et fut primé avec quelques autres écrivains en herbe. Le prix consistait en un séjour à la montagne. Pendant cette semaine, le compagnon de chambre de Stig Dagerman périt dans une avalanche et le séjour tourna court. À partir de cette même année, l'année du bac, il habite avec une de ses tantes venue elle aussi depuis Elfkarlabu dans un des appartements achetés par son père dans l'immeuble de Hossegatan. Sans doute a-t-on pensé que c'était mieux ainsi. Sans doute que la quantité de chagrin confondu dans la mémoire juvénile du fils et l'alcoolisme du père ne faisait pas bon ménage. Nul ne sait précisément ce qu'est son besoin de littérature pendant ces quelques années. Il consacre ses mots à des articles de journaux dans un désir militant de donner aux classes populaires des livres à lire, des films à voir, des angles de vue à adopter. Il commence son engagement en adhérant à une association d'élèves au lycée, puis très vite, au club des jeunes syndicalistes de Stockholm, organisme anarcho-syndicaliste. Il dira bientôt que c'est là sa véritable famille. L'organisation anarcho-syndicale de Suède compte 22 000 adhérents. C'est la plus importante au monde. À l'âge de 18 ans, Dagerman devient pigiste pour le journal Arbetaren, Le Travailleur, et dans Storm, Tempête. Il devient vite secrétaire et fait vraiment de la politique. Colle, discute, rédige, prend la parole alors qu'il est timide, s'engage, rencontre, s'insurge, organise, défend, refait le monde en fumant cigarette sur cigarette.
Les systèmes basés sur la terreur, comme le nazisme, révèlent certes instantanément leur nature par une brutalité physique qui ne connaît pas de bornes, mais une réflexion un peu plus approfondie amène vite à comprendre que les systèmes étatiques les plus démocratiques eux-mêmes font peser sur le commun des mortels une charge d'angoisse que ni les fantômes ni les romans policiers n'ont la moindre chance d'égaler. L'anarchisme et moi.
Nous sommes là à une époque étrange, insupportable pour la jeunesse engagée de ce pays.
La Norvège est occupée. La Finlande en guerre contre le géant soviétique et la Suède opte pour la neutralité face à l'Allemagne nazie. De quoi ressentir, pour qui traîne une angoisse existentielle, une culpabilité sociale, politique, collective. De quoi potentialiser le sentiment enfoui et personnel, nourri par l'abandon et le manque d'amour, et éprouver ainsi une sorte de culpabilité au carré. La culpabilité d'être Stig Dagerman, multipliée par la culpabilité de ne pas être du côté des faibles, des agressés, des justes.
Je crois que la solidarité, la sympathie et l'amour sont les dernières chemises blanches de l'humanité. Le destin de l'homme se joue partout et tout le temps.
Nous sommes dans un royaume. Nous sommes aussi dans le pays des Tatars jusqu'en 1945. Les Tatars sont des ouvriers agricoles que l'on ne paie pas. Autant dire des esclaves qui ne reçoivent contre leur travail que le gîte, le couvert et une semaine de liberté par an. Nous sommes au pays d'un mouvement littéraire issu de cette immense pauvreté que l'on a nommée la littérature prolétarienne. Quand on est un chroniqueur engagé des années 40 suédoises, en plus de la neutralité nationale, notre regard est façonné par ces trois autres singularités.
La névrose causée par le manque de perspective et par l'impossibilité d'identifier sa situation dans la société ne peut être contrebalancée par des avantages matériels, purement apparents. L'anarchisme et moi.
Stig Dagerman, durant sa courte vie, aura quelques maîtresses et deux femmes. La première, Anne-Marie Goetze, avec qui il aura deux garçons, il la rencontre dans ce satori politique des premières années, quand le rêve commande à la vie sa plus merveilleuse unicité. Il milite. Elle est la fille de militants anarcho-syndicalistes allemands qui ont dû fuir le nazisme et se réfugier en Espagne où ils participent à l'aventure républicaine avant d'être à nouveau chassés par le franquisme. Une grand-mère d'Anne-Marie a été déportée à Ravensbrück et la mère, Ellie, enfermée dans les geôles espagnoles. De quoi tombons-nous amoureux, exactement, quand nous tombons? Son premier roman, Le Serpent, paraît en novembre 1945. Sur le berceau de cet animal poisseux d'angoisse et de peur se penchent les bonnes fées éditoriales suédoises. Sa vie d'écrivain, il accomplira avec Nourstedt et surtout avec un homme qui fera preuve de toute la patience du monde et de toute la compréhension dont un écrivain puisse rêver de la part d'un éditeur, Ragnar Svanström.
Stig Dagerman.
Margareta Kestberg.
Représente un des grands écrivains de notre patrimoine nordique de littérature. Ça représente également pour moi un écrivain jeune, parce qu'il est mort jeune. Et c'est une écriture de jeunesse en grande partie. Et c'est aussi pour moi, ça me fait penser à l'école, au lycée, parce que les gens de mon âge, on a tous étudié les poèmes de Stig Dagerman à l'école, chose qui ne se fait plus. Et puis, je pense aussi, il y avait un film qui s'appelait « A tuer un enfant » en français, « Attard that born », que tout Suédois a vu. C'est un film qui a été, je l'ai appris après, commandé par les autorités pour prévenir les accidents de la route. Et c'est une histoire extrêmement triste. C'est un enfant qui est envoyé pour acheter du sucre, sa maman a oublié. Il est écrasé par une voiture et donc c'est la fin d'une vie, physiquement, psychologiquement, de trois vies. Donc cette histoire, je pense qu'elle est incrustée dans ma tête, comme dans beaucoup de gens ici en Suède. Donc ça, c'est, je pense toujours à ça quand j'entends le nom de Stig Dagerman. Autre chose qu'il représente, c'est qu'il était d'une village qui s'appelle Älvkarleby, qui était aussi tout proche d'où venait mon grand-père. Donc j'allais, enfant, j'allais souvent à Laxen, qui est une île, avec une, c'est pas un ruisseau, c'est un vrai grand ruisseau avec des poissons. Et Laxo, ça veut dire l'île au saumon. Donc c'est un endroit particulier, très, très folklorique. Et c'est là aussi on décerne le prix Stig Dagerman, qui est plus connu, je crois, ce prix en France qu'en Suède. peut-être parce que c'est hors Stockholm, c'est en capitale, c'est plutôt province, mais c'est un prix aussi.
Qui est distribué à des gens extrêmement prestigieux.
Et je sais, parce que moi je fais ma thèse sur Jean-Marie Lucrezio. Avant qu'il ait eu le prix Nobel, mais il a eu, la même année que le prix Nobel, il a eu ce prix Stieg Bergman. Donc il a écrit des choses que j'ai lues sur Bergman, et c'est un grand admirateur de l'écriture de Stieg Bergman.
Un soir de novembre, je rencontre sur la route de ma promenade une pensée de nuit. Elle m'invite à regarder la fin du jour en buvant un verre de vin. Je commence à chercher un bar confortable et chaud, mais ma pensée de nuit me demande de l'excuser et me quitte devant le bar en riant.
Skratande.
Il est 4 heures de l'après-midi.
Dieter Klockenführer. Pour Eftelmidagen.
Le dixième de sa vie brève est dans le lointain de nos jumelles qui ne détectent que la peau des choses, du monde, de l'existence et de la gloire. Ces 3 années sont sinon belles, du moins intenses. Ce sont pendant ces quelques 3 douzaines de mois que naissent à peu près tous les livres. L'île des condamnés, les jeux de la nuit, automne allemand, le condamné à mort, l'arriviste, l'ombre de Marthe, l'enfant brûlé, le jeu de la vérité. Aussi, un voyage en Allemagne, 2 en France, un séjour en Norvège, une histoire avec une maîtresse qui s'achèvera par une tentative de suicide. S'entailler les veines et faire cette terrible découverte. Le lendemain était un beau jour, presque le plus beau de ma vie. Les premiers livres s'écrivent dans une frénésie nocturne, nuit d'insomnie pendant lesquelles celui qui abîmera ses yeux devant tant de feuilles blanches et létales voit les mots répondre aux appels de phare de sa machine à écrire. 3 nuits, dit-on, pour venir à bout de la pièce en 4 actes Le condamné à mort, les 65 dernières pages de L'île des condamnés torchées en 18 heures.
À mon avis, ils avaient le tort de trop parler d'idées. Cela leur enlevait la force indispensable. Les idées devaient, à mon avis, être réservées aux salles de jeu. Car si les idées sont nécessaires, c'est à titre de jouets, de beaux jouets pour les adultes. Il me semblait que les idées s'opposaient sur un plan absolument faux. Au lieu d'arriver la tête pleine de ces idées impitoyables affirmées avec détermination sadique et de se réunir autour des tables où l'on prétendait décider du destin du monde, il eût été préférable de se réunir sur un court de tennis et de jouer avec les idées, ou sur une grande scène et de faire du théâtre avec elles, ou encore sur quelques grands prés verts où on les chasserait au soleil comme des papillons.
Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos de Stieg Bergman?
Per Lidvall,
je suis nouveau conseiller culturel dans la municipalité de Skutskär et je viens de m'impliquer dans le projet Stieg Bergman. Et comme maintenant la municipalité a repris le prix Stieg Bergman, cette année était la première fois que nous l'avons organisé. Et cela a été très important que ce soit Magda Gad, qui a beaucoup en commun avec Stieg Bergman dans sa façon de penser, qui soit primé. et il a été très important de la rencontrer et d'écouter tout son discours et tout ce qui concernait Stig Dagerman. Cela m'a rendu curieux de savoir plus à propos de Stig Dagerman. Je suis né et j'ai grandi ici, dans la municipalité d'Elf-Karlabu, mais j'ai travaillé à l'étranger pendant de nombreuses années et je suis revenu ici. Et maintenant, je commence à en apprendre de plus en plus sur Stig Dagerman. J'ai donc décidé qu'à partir de l'année prochaine, j'organiserai des semaines Stig Dagerman à la bibliothèque pour former les habitants de la commune sur Dagerman. Cela devrait aussi concerner le prix. La formation sera organisée avec des conférences et une exposition. Comme j'ai l'impression d'en savoir si peu moi-même et comme j'estime que nous devons partager ce que nous savons, puisque la municipalité est responsable du prix, je pense que les habitants de la commune ont besoin d'un peu plus de connaissances. Et aujourd'hui même, nous avons reçu du matériel pour travailler avec l'école primaire et déjà commencer à ce niveau. Nous aurons également Bengt Söderhäll, comme vous le savez, et Ulla Forsgren de la Fondation Stig Dagerman, qui participeront à l'introduction de Dagerman dans les écoles.
Début 46. Il renonce à son poste de secrétaire de Arbetaren, mais continue à collaborer avec le journal. Suite au contrat passé avec le tabloïd de Centre Droit Expressen, il voyage pendant 2 mois dans l'immense ruine de l'Allemagne vaincue, Hambourg, Berlin, Hanovre, Düsseldorf, Cologne, Wuppertal, Munich. Il en ramènera un ensemble d'articles qui seront publiés sous le titre de « Automne allemand », un de ses livres les plus célèbres.
Il n'était nullement exagéré de soutenir que ces flots, jamais taris de réfugiés, qui noyaient la plaine allemande depuis le cours inférieur du Rhin et de l'Elbe jusqu'au haut plateau balayé par les vents de la région de Munich, constituaient l'un des événements majeurs de la politique intérieure de ce pays, sans politique intérieure. La pluie qui recouvrait le fond des caves de la région de la Ruhr de plus de 50 cm d'eau constituait un autre événement de politique intérieure d'importance à peu près égale. On se réveille, à supposer qu'on ait dormi, transi de froid sur un lit sans couverture. On marche avec de l'eau au-dessus des chevilles jusqu'aux poils et l'on essaye de faire du feu avec les branches vertes d'un arbre abattu par les bombardements. Derrière vous, quelque part dans l'eau, un enfant tousse d'une toux d'adulte tuberculeux. Si l'on finit par réussir à faire prendre le feu dans ce poêle, que l'on a sauvé de l'anéantissement au péril de sa propre vie dans les décombres d'un immeuble sous lequel son propriétaire est enterré depuis un an ou deux, la fumée envahit la cave et ceux qui toussaient toussent encore un peu plus. Sur le poêle se trouve une marmite avec de l'eau. De l'eau, il y en a. Et l'on se penche sur l'eau qui recouvre le fond de la cave pour ramasser quelques pommes de terre qui gisent sur ce sol invisible. Celui qui se tient, ainsi, debout, dans l'eau froide jusqu'aux chevilles, met ses pommes de terre dans la marmite et attend qu'elles veuillent bien être mangeables, bien qu'elles aient été gelées avant que l'on réussisse à mettre la main dessus.
Stig Dagerman.
Anna.
Var för mig en...
Stig Dagerman était pour moi une âme assez sensible, un intellectuel qui était peut-être la réponse nordique à Alexievitch. Son histoire sur l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, c'est le meilleur reportage que je n'ai jamais lu, et il était presque le premier qui décrivait de façon réaliste la situation des gens, dont leur culpabilité, leur misère et leur vengeance. Il est arrivé à passer outre ses sentiments et à décrire sans pour autant prendre position. Ce sont les jeunes qui retrouvent Stig Dagerman, qui tombent sur des nouvelles expressions. Ils ne vieillissent pas. Il n'a pas vécu longtemps, Mais comme lui, ses livres ne vieillissent pas. Ils sont toujours aussi pertinents, en fait.
Début 1949, il lui reste 6 ans à vivre, un cinquième de sa vie. Le jeu de la vérité, pièce créée cette année-là au théâtre de Malmö, marque son premier échec médiatique. Il reçoit une nouvelle commande qui nécessite un grand voyage. Rejoindre l'Australie avec 1500 réfugiés de la guerre sur un bateau affrété par la Suède. Une manière de renouer avec la réalité sociale et miséreuse à pleine main. Il devra écrire un scénario et embarque à Naples avec dans ses bagages de larmes son amour éconduit pour une certaine Nancy Dalund. 32 jours sur la mer, pendant lesquels les mots renonceront cette fois à répondre aux appels des phares. À bord, il succombe à une amourette et transmet à ses commanditaires un improbable scénario de film policier, comme une manière impolie de s'excuser d'être improductif. Il refuse de rentrer en bateau, craignant de voir se lever sur l'horizon 32 fois la mélancolie, et choisit de revenir en avion. Ce n'est pas aussi rapide qu'on l'imagine. Cela passe par les îles Fidji, les États-Unis, mais cela donne des meilleures idées. De ses heures de vol, de ses quelques nuits d'hôtel, il ramène le canevas d'un roman. Le dernier qu'il achèvera, Ennui de noces. Il faut aller au bout du monde et en revenir par des chemins improbables pour retrouver les personnages de l'enfance et d'Alf Körleby. Le livre paraîtra en novembre 1949. Il a 26 ans.
Simon pense à une fille de Bomhus qui n'était pas très jolie. Elle avait acheté du rouge à lèvres à Yelv, son premier rouge à lèvres. « Ça résiste au baiser », avait dit la vendeuse. « Ça m'a coûté 5 balles », avait-elle raconté en revenant. « Mais personne ne m'a embrassé pour autant. » Ennui de noces.
En 1950, il est interné quelque temps dans un service psychiatrique. C'est à partir de cette période que les livres sont promis aux limbes, que les romans de Dagerman deviennent des êtres trop chétifs qui n'atteignent que quelques pages avant de rejoindre les étoiles, la nuit, l'inaccessible des vivants. Le couple se sépare au début de l'année 1951. Vivre avec un écrivain est une épreuve qui ne peut guère se supporter la vie entière. Il a fallu à sa femme tricoter des jours entiers en endurant les désespoirs de son mari et des nuits entières à cause du bruit de sa machine à écrire et de l'électrophone sur lequel se poussaient des voix noires et des standards de jazz. Il lui a fallu fermer les yeux sur toutes ses infidélités, tolérer son refus des tâches manuelles et ménagères et s'occuper plus qu'à son tour des enfants. Il lui a fallu le convaincre qu'il n'était pas moins qu'un homme, mais sans doute aussi pas plus qu'un dieu. Stig a épousé une famille qui a incarné la lutte quand la lutte le hantait. Il va épouser une femme qui incarne le succès, l'art, la beauté de la jeunesse quand ces quatre-là, semble-t-il, commencèrent à le fuir.
Tender, do you remember? Can't forget how we met long ago. And oh, under the your eyes were glow.
Elle s'appelle Anita Björk. Qui veut la voir se mouvoir, rire, pleurer, mourir, peut visionner l'adaptation de Mademoiselle Julie qu'a faite pour le cinéma Alf Schoeber. Stig et Anita se connaissaient depuis la création du jeu de la vérité au théâtre. Et puis, Alf Schoeber est un ami de Dagerman. Et puis, le monde de l'art est toujours très petit. Norstedt assume le loyer de la nouvelle maison en plus des 600 couronnes que l'éditeur verse à Stig Dagerman. Ce dernier est débiteur de plus de 50 000 couronnes suédoises, soit l'équivalent de 75 000 euros actuels. Ragnar Svenström propose de vendre la maison que Stig possédait avec Anne-Marie. Il veut aussi vendre la voiture de l'écrivain, mais celui-ci refuse. Stig semble nourrir une vraie passion pour les voitures. Il aime la vitesse et que la route puisse rendre tangible la mort. Stig devient père d'une petite fille, Lou. Le jeune couple et l'enfant font un voyage à Paris qui ne donnera rien. Nous sommes à l'automne 51. Rien jusqu'à ce qui aurait pu être qu'un simple article confié à un organe de presse féminin, mais qui est devenu le texte le plus célèbre de Stig Dagerman, notre besoin de consolation. Le couple déménage dans la banlieue de Stockholm, à Ennebuberg, au premier étage d'une maison construite au milieu des bouleaux et des pins. Il y a un garage en contrebas, au bord de la route.
30 banlieues pour aller à Ennebuberg. Allez, voilà. La dernière adresse de Stig Dagerman, l'endroit où il a décidé de se suicider. Alors je ne sais pas si la maison est toujours là. J'ai une adresse. C'est Phoenixwegen, c'est-à-dire le chemin du phénix. Et je me demande s'il y a plus bel endroit pour se donner la mort.
Il accompagne plusieurs fois Anita en Allemagne où elle tourne coup sur coup deux films. Il rentre toujours seul, avant elle. Il commence à pratiquer ce qu'il nomme les jeux du garage. Ceci consiste à s'enfermer dans son garage, à mettre le moteur en marche et à s'emplir les poumons de la fumée grise jusqu'à désirer l'air pur. Retrouver cette exaltation qui suivit sa première tentative de suicide, faire que la vie soit belle à nouveau, au sortir des brumes et du monoxyde de carbone. Il semble aussi abuser de quelque alcool et de quelque drogue. Au printemps 1954, s'épand le dernier rayon de soleil matinal sur une feuille. Anita racontait ce temps suspendu, leur bonheur partagé à son réveil, devant un texte qui renoue avec la limpidité perdue. Ce pourrait être le prologue d'un livre envisagé autour de Carl Jonas Love Almquist. Cela raconte la visite de Dieu à Newton, et c'est ainsi que nous connaissons ce texte, par le titre français « Dieu rend visite à Newton ». Ragnar s'enthousiasme, mais Stig répond bientôt par une douche froide. Il dit qu'il ne se sent pas mûr pour poursuivre cette œuvre ambitieuse. Il voyage encore deux ou trois fois en Allemagne, puis à Vienne, toujours pour rejoindre Anita et des soirées mondaines, des projections, des avant-premières, des coupes de champagne qui n'illuminent aucune nuit. Le 5 octobre, pour son anniversaire, il est seul dans Stockholm et va au cinéma voir une des deux seules comédies d'Ingmar Bergman. En tout cas, un des seuls films de Bergman qui peuvent faire sourire le spectateur. Une leçon d'amour. Un vaudeville, serait-on tenté d'écrire. Une manière de reconquérir pour un mari adultère le cœur de sa femme par son intelligence et son amour sincère. Un dimanche soir de solitude, il jette tous ses carnets intimes puis joue au jeu du garage. Le lendemain, il tente de les retrouver en se faisant accompagner à la décharge, mais en vain. Il meurt dans la nuit du 3 au 4 novembre, après avoir déposé chez Arbetaren son dernier billet. Il semble qu'il ait fait une tentative désespérée pour sortir de sa voiture, du garage, des brumes et du monoxyde de carbone. Et alors ce n'est pas un suicide plus que les tentatives précédentes, mais un jeu qui a mal tourné. Est-ce que l'homme qui joue régulièrement à la roulette russe, en ne tirant qu'un coup de pistolet sur sa tempe, se suicide ?
Il y a quelque chose à l'endroit où habitaient Stig Dagerman et Anita Björk. Il y a une petite image, une photographie du couple souriant. Il y a un petit rappel de ce que fut la vie de Stig Dagerman. Il y a une rue qui porte son nom, qui mène nulle part, je crois.
À Ennebuberg, la maison est entourée d'une colline de bouleaux et de pins. Le sol de novembre est moussu On marche sur la bruyère et le lichen, aucun pas ne résonne ni ne heurte de cailloux. La mort a pu venir sans faire de bruit, éviter le gravier et de faire tomber les pièces de monnaie qu'elle avait à rendre.
Den sista schäden plo persult. Den sista tvor smulen en ven fören sist dusch. En sista gång. Que le temps passe vite. Et sista försök för att inte glömma ordet skådespelerskorna. Men det är möjligt. En sista retur från söder med den sista
Oscar-Mazarin. Maintenant dans le cimetière d'Alvkarleby, devant la... J'ai envie de dire devant le corps de Stig Dagerman, puisqu'il n'y a pas vraiment de tombe. On aperçoit une pierre gravée, insérée dans le gazon, avec un nom, un prénom, une date de naissance, une date de mort et une phrase.
At deux,
mourir,
er atresa en smula,
c'est faire un tout petit voyage
from Greenland till Fasta Marken,
depuis la branche jusqu'à la terre ferme.
Elle est fleurie, sa tombe. Elle est sous un petit arbre. C'est le seul arbre de cette essence dans tout le cimetière. Ça donne quand même une sorte de privilège. Elle est singulière. Par cet arbre. Voilà, c'était important pour moi d'être là, pas pour une sorte de recueillement, je crois que je me recueille beaucoup mieux dans les livres que devant une dépouille, mais je sais pas, il y avait cette question qui fait partie des questions qui nous entourent lorsqu'on écrit des livres, des questions auxquelles il n'est même pas intéressant de répondre, on le sent, les questions qui sont des accompagnatrices indispensables pour nous faire avancer. Et dans ces questions, parmi ces questions, il y avait celle-ci. Quel est exactement le silence dans le cimetière d'Alvkarleby? Je voulais l'entendre, c'était vraiment important pour moi de l'entendre. J'ai l'impression d'avoir atteint un point sur la route. Alors il me reste à écouter ce silence encore un petit peu.
En siste gang på brun, men meniskor som är på väg hem från kontoret. Och med l'oiseau som äter fågel. De sista kikorna finglasen tidningarna som jag inte kan läsa än. Sista stenen i min sko. Ljuset i ögonen.
Dernière cuillère de confiture de myrtille. Dernière miette de savon utilisée pour la dernière douche. Dernier haut que le temps passe vite. Dernier essai pour ne pas oublier le mot skådespelerskorna, mais c'est impossible. Dernier retour depuis Söder avec les derniers Tosca Mazarin dans mon sac. Et dernier sac plein de ce que je ne sais pas encore.
Dernière fois sur le pont, avec les gens qui rentrent du bureau, et avec l'oiseau qui s'appelle Vogel. Dernières églises, derniers verres de vin, journaux que je ne peux pas lire. Dernière pierre dans ma chaussure, lumière dans mes yeux, huile dans la vieille et blanche casserole. Je reviens sans me souvenir de la différence entre les verbes suédois « se raser » et « suffire », mais sans oublier les deux premières phrases que Lotta m'a apprises à Falun en 1989. La terre est bleue comme une orange, et peut-être que le rossignol est fou. C'est en octobre 2020 que je me suis rendu en Suède jusqu'à la maison de mon ami. J'avais dans mes bagages la très complète biographie de Stig Dagerman qu'a signé Georges Huberschlag aux éditions de l'Élan. Les réponses bienveillantes de Lou Dagerman et de Bengt Söderhäll à toutes mes questions. Un appareil enregistreur Zoom H4N sur les conseils avisés de Gaël Gillon. Et une bourse de l'Institut français. Pour l'écriture d'un livre intitulé « 31, c'est peu », Stig Dagerman, 1923-1954, qui paraîtra à l'automne 2023, l'année où Stig Dagerman aurait eu 100 ans.
Det finns människor som ingenting gör för att bli älskade. Men ändå blir det. Och de som gör allt för att bli älskade, men aldrig blir det. Riktigt fattiga människor, kan man märka, har ofta svårt att bli älskade. När Åkes mor hade varit änka i 5 år, fyllde hans farfar 70. De blev bjudna dit i ett kort färdbrev, korta rader, där det stod att vill ni komma så. Listen to your story.
Mon ami Stig Dagerman. Lecture de texte, Cyril Metzger. Avec les voix françaises de Margareta Kastberg et de Yann de Monterno. Les voix suédoises d'Anna, de la librairie Hansson och Bruce de Stockholm. Et de Per Lidvall, de la commune de Skutskär. Traduction des interviews, Margareta Kastberg. Prise de son, Élise Leu. Xavier Lévesque et Jason Taous. Mixage, Manu Couturier. Coordination, Aurélie Charon et Inès Duperron. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Une expérience de Christophe Fourvel.